Merci David, merci à l'équipe de Louange et puis bonjour à chacun d'entre vous. Voilà, je suis vraiment heureux d'être ici ce matin et pour vivre ce temps de partage autour de la parole. Alors comme nous l'a rappelé David, nous sommes en pleine période de l'Avent, ce temps si particulier qui nous invite à célébrer dans la joie et l'espérance la venue de notre Sauveur et Seigneur. Alors ce n'est pas dans mes habitudes de bousculer nos repères. Cependant, ce matin, j'ai été amené à vous proposer un passage que l'on lit généralement à période de Pâques. Voilà. En fait, il se trouve qu'à la suite de la dernière leçon que j'ai pu donner aux enfants le mois dernier, eh bien, ce texte s'est imposé à moi. Et puis, je voulais donc tout simplement partager avec vous ce qui a été déposé dans mon cœur, si vous êtes d'accord. Que le Seigneur continue à nous bénir, chacune et chacun, mais aussi en tant que communauté. Et je m'inscris tout à fait dans la continuité de ce thème qui nous a été prêché durant tout ce trimestre. On retrouve les panneaux sur « Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, etc. etc. » Donc je vous propose un thème sur cette continuité. Si vous avez vos Bibles, eh bien, je vous invite à l'ouvrir à l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 22. Sinon, vous allez le trouver sur l'écran derrière moi. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, c'est-à-dire un dimanche soir, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. » Jusqu'ici, parole du Seigneur. Ce matin, ma prédication va reposer sur trois axes. La présence centrale de Jésus dans la communauté, on peut passer la diapo si on peut. La communauté chrétienne comme don et grâce. Et puis du désarroi à l'envoi, la communauté est envoyée. Voilà les trois thèmes que je voudrais aborder ce matin. Merci Cédric de passer, si c'est possible. Ah, ça bug. Bon, c'est pas grave, alors vous écoutez. Vous écoutez. La présence centrale de Jésus dans la communauté. Ce soir-là, ce dimanche soir, l'ambiance dans la maison n'a rien d'une fête. Ce n'est pas la joie qui règne, loin de là. Plutôt la peur, l'incertitude, un sentiment d'insécurité, d'angoisse qui serre le cœur des disciples. Les disciples sont là, agités par de nombreuses questions à propos de l'avenir. Que devons-nous faire maintenant? Que va-t-il arriver? Que va-t-il nous arriver? Et certainement, la culpabilité les étreint. Ils n'ont pas été à la hauteur. Ils ont fui alors qu'il aurait fallu accompagner le maître. Pierre a prononcé des paroles qu'il regrette et qu'il ressasse, certainement, de manière récurrente. Tout cela est sans doute au centre de leur discussion ce soir-là. Ils sont là ensemble, mais le sont-ils vraiment encore ensemble? Il n'y a plus beaucoup de choses qui font de leur unité, et il y a des forces qui les lient certainement encore. On peut penser à ce réflexe tout à fait humain de se regrouper face au danger, de se protéger mutuellement. Dans la tourmente, effectivement, on se raccroche naturellement les uns aux autres. Mais des forces aussi sont là, qui tend à les séparer. Pierre et Jean ont vu le tombeau vide. Marie de Magdala leur a dit que Jésus était ressuscité. L'évangile de Luc nous dit qu'en fait, ils ne croyaient pas. Alors, ils sont là, dans minimum 10, dans une tension fragile et des forces de dispersion qui sont déjà à l'œuvre. Judas n'est plus compté parmi eux. Thomas est absent, on ne sait où. Les doutes, les manques de vision, les blessures intérieures, les culpabilités latentes, leur arrière-plan personnel. Vous connaissez le dicton, hein, chasser le naturel reviendra au galop. Qu'est-ce qui réunit des patrons pêcheurs avec un zélote, c'est-à-dire un partisan d'un mouvement nationaliste, hein, un zélote, un collecteur d'impôts, un homme peut-être de la mouvance des pharisiens avec Nathanaël. Si rien ne se passe, leurs liens finiront par se relâcher. Et une fois le danger passé, chacun certainement partira de son côté et retournera à leur occupation d'autrefois. Peut-être qu'un jour, ils se retrouveront autour d'un verre pour évoquer ensemble les souvenirs de ce bon vieux temps. Mais pour l'instant, c'est autre chose qui domine. Et puis là, dans cette tension entre ce qui les a unis et ce qui les sépare, Jésus se présente à eux. Que la paix soit avec vous. L'évangéliste Jean a précisé, Jésus se présente au milieu d'eux, au milieu d'eux. Je crois que la formule n'est pas choisie au hasard. Elle exprime la centralité de Jésus au sein de la communauté malmenée des disciples. Alors est-il précisément Jésus au centre de la pièce, les bancs et les coussins étant arrangés en cercle ou en demi-cercle? Je ne sais pas, mais ce que je peux affirmer sans aucun doute, c'est que les regards de tous ceux qui étaient présents à ce moment-là convergeaient vers ce centre. Jésus était au centre de leur attention. Jésus était au milieu d'eux, à égale distance les uns des autres, promenant son regard sur chacun d'eux de la même intensité, pour chacun, pas plus près des plus fervents, de ceux qui ont plus la foi, pas plus loin des plus sceptiques. Et bien au contraire, lorsque Thomas reviendra plus tard dans la soirée, il sera là pour lui, pour Thomas, celui qui est considéré comme l'incrédule par excellence, s'écriera « Mon Seigneur et mon Dieu ». Est-ce que vous connaissez ce cantique ? Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous ? Je veux vous bénir tous. Les disciples auraient pu le chanter ce soir-là s'ils l'avaient connu. Hein ? Jésus est au milieu d'eux, leur parle, et par ses paroles, Jésus balaye les forces de dispersion de la communauté des disciples. Il leur dit d'abord « Que la paix soit avec vous ». Et il leur dit deux fois. Parfois, j'ai besoin d'entendre, et je pense que vous êtes comme moi, deux fois les mêmes choses. Non pas parce que je serai sourd, mais parce qu'il y a tellement d'obstacles en moi, tellement de résistance à la réception de la parole de vie. Jésus a de la patience envers moi. Jésus a de la résolution envers chacun d'entre nous. Par cette parole, que la paix soit avec vous, Jésus éloigne les doutes et les craintes, installe la paix au-delà des circonstances. Ils sont encore dans cette pièce enfermée, les portes étant fermées, il y a toujours les murs autour d'eux, mais Jésus est là et ça change tout. Pendant que j'écrivais, j'imaginais bien les paroles de Jésus, que la paix soit avec vous, comme les bras d'un parent qui enveloppe son enfant, qui entoure son enfant, qui a besoin d'être consolé, réconforté, calmé. Tous ceux qui ont eu des enfants se rappellent ce temps où l'enfant troublé se retrouve dans ses bras et le papa ou la maman avec les bras entourés. Chut, calme-toi. Je suis là. Il n'y a rien, c'est pas grave. Vous avez déjà tous fait ça, n'est-ce pas? N'aie pas peur, je suis là. Que la paix soit avec vous. Et puis la deuxième parole a plusieurs volets. Jésus leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il leur précise la condition de leur envoi. Il souffle sur eux l'Esprit, l'Esprit Saint. Ils n'iront pas seuls. Ils auront un message à délivrer, celui du pardon des péchés. Alors Jésus, par ses paroles, leur ouvre un nouvel avenir, un nouveau but, une nouvelle vision de leur vie. La communauté chrétienne comme don et grâce. Jésus au milieu de nous est une grande et belle vérité, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs applications pratiques à cette vérité. Alors, ça peut passer les diapos ou Cédric, je comptais sur toi pour m'écouter. Cédric m'avait proposé le petit appareil pour passer les diapos. J'ai dit non, je vais être perturbé. Et si tu le fais, je sais qu'au moins un dans la salle m'écoute pour passer les diapos. Alors même ce un ne m'écoute pas, je t'embrasse, mon cher frère. Oh là là, Jésus unit et bâtit sa communauté sur un seul fondement, c'est sa présence au milieu d'elle, n'est-ce pas? Jésus unit et bâtit sa communauté sur ce seul fondement, sa présence au milieu d'elle. La communauté chrétienne comme un don et une grâce. Même si dans notre société française, l'association est le format juridique sous lequel nous nous réunissons pour le culte, n'est-ce pas? L'association ne fait pas la communauté chrétienne. C'est Jésus au milieu de nous qui est le fondement, qui fait que nous sommes Église. Sans Jésus au milieu de nous, que sommes-nous? Un club? Non seulement nous venons au culte et nous y participons parce que nous avons rencontré Jésus, si vous ne l'avez pas déjà fait, tout à l'heure il y aura une invitation spéciale pour vous de rencontrer Jésus. Mais nous venons aussi au culte pour le rencontrer à nouveau, pour le trouver à nouveau, n'est-ce pas? Nous ne venons pas ici par tradition, parce que ce n'est pas bien si on ne va pas au culte. Ce serait dommage. On vient au culte, on se rassemble ensemble parce que nous voulons toucher le Christ qui est vivant au milieu de nous. Comment se manifeste-t-il? Mais au travers des gestes, des paroles, des actes du culte. C'est comme cela que le Seigneur se manifeste au milieu de nous. Il parle par les frères et par les sœurs, par les charismes que le Saint-Esprit distribue selon sa volonté. Et il l'a fait ce matin. Il nous sourit lorsque je vois un frère sourire et m'accueillir. Il me sert aussi au travers des chants que nous avons chantés. Il vient toucher au plus profond de notre être intérieur. Quel magnifique chant que nous avons chanté ce matin. A cappella en plus, c'est mon rêve. De ne pas détonner à côté de quelqu'un qui chante juste et que moi, je n'ai pas l'habitude. Il parle également par la prédication, en tout cas je l'espère ce matin. Et puis il nous annonce le pardon et dispense la grâce lorsque nous partageons le pain et le vin. Alors si c'est Jésus qui fonde la communauté est une grâce que Jésus nous fait, n'est-ce pas? Avons-nous pensé que notre église locale, celle où vous êtes né peut-être de nouveau, ou celle que vous fréquentez par choix, est-ce que vous avez pensé que cette communauté est un cadeau de la part de Jésus? Hein? Si c'est un cadeau, alors les frères et les sœurs que Jésus a placés à mes côtés sont aussi des dons de Dieu pour moi. Peut-être avons-nous pensé, intérieurement, on ne le dit pas en règle générale, au sujet de un tel ou d'un tel, ben celui-ci, ce n'est pas un cadeau. Ben si, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Jésus se tint au milieu des disciples qui ne se sont pas choisis les uns les autres, qui ont été choisis par Jésus. dans une église locale, nous ne nous choisissons pas les uns les autres. Certains, par habitude, lors des réunions, lors des cultes, ont souvent leur place comme réservée. Hein. Là, souvent, sur l'aile gauche, il y a tous les jeunes là, qui sont à leur week-end. Mais là, ça change un petit peu. C'est ainsi. Nous ne savons pas à côté de qui nous serons assis lors du culte. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Quand je regarde à Jésus, quand j'ai les yeux fixés sur lui, je découvre un frère et une sœur qui aussi regardent à Jésus. Et c'est cela qui fonde notre communauté. C'est cela qui fait notre communion, lorsque nous regardons ensemble à Jésus. Voilà. Notre communion est par Jésus. Jésus se tient au milieu de nous et transforme nos relations. Si l'amitié est bien sûr un avantage, ce n'est pas cela qui fonde notre communion. Nous nous aimons en Christ, en Jésus-Christ. Nous nous aimons parce que lui nous a aimés chacun de manière identique. L'amour de Jésus a la même valeur pour le frère qui est à côté de moi. Il aime mon frère de la même manière qu'il m'aime moi. Vous savez, l'amitié, c'est de l'ordre naturel. Jésus n'est pas médiateur dans l'amitié. Lorsque deux personnes sont amies, ils n'ont pas besoin de Jésus. Ce n'est pas l'amitié qui fonde l'Église. L'amitié commence lorsqu'on partage des mêmes passions, lorsqu'on a des mêmes sujets d'intérêt. Vous connaissez certainement la citation de Lewis, C.S. Lewis. L'amitié naît au moment où une personne dit à une autre « Quoi ? Toi aussi ? Je pensais que j'étais le seul. » Et puis il y a discussion qui s'échange. Voilà, et on construit des intérêts communs. La communion fraternelle a besoin de Jésus pour vivre, pour faire vivre ensemble des personnes que peut-être tout oppose et que pourtant Jésus a choisi de les placer ensemble au sein de la même communauté. L'Église n'est pas fondée sur l'amitié. L'Église est fondée sur Jésus au milieu qui nous unit par le même amour. Si Jésus a accueilli, aimer et pardonner une personne avec laquelle moi, humainement, je ne partage pas d'affinité, quelle serait ma place si je ne lui adresse pas la parole, si je ne partage pas la communion avec elle ou si je ne l'accueille pas alors que nous sommes appelés à vivre l'éternité ensemble? Les croyants sont unis non par affinité sociale ou culturelle, mais par la réconciliation accompli par Jésus. Chaque membre de notre communauté, même celui ou celle avec qui peut-être je n'ai pas d'atome crochu, est un cadeau de la part de Dieu. Voilà. Alors peut-être changeons notre regard tout à l'heure à la sortie du culte. Frère, tu es un cadeau de la part de Dieu. Et moi aussi j'en suis un pour toi. Hein. Je vous ai déjà partagé comment à l'âge de 15 ans, le Seigneur m'a attiré à lui, m'a sauvé. J'étais adolescent et j'ai été accueilli au sein d'un petit groupe de prière et qui réunissait toute une génération différente. Pour moi, j'avais 15 ans, il y avait des vieux, ils avaient 40 ou 50 ans, je ne sais plus. Mais voilà, mais ensemble, ce qui nous unissait, c'était qu'on découvrait ensemble Jésus. Waouh ! J'avais pas d'atome crochu avec ces personnes de 40 ou 50 ans. J'avais 15 ans. Mais il y a eu cet accueil au nom du Christ, au nom de Jésus. Waouh ! J'ai gardé de cette période vraiment une douce nostalgie. Voilà, c'est comme ça, je pense. Mais nostalgie, ça ne veut pas dire regret, mais vision de vie. Voilà. J'aime lorsqu'il y a l'intergénération au milieu de nous. C'est incroyable. J'avais ma place au milieu de ces quadras, c'est comme ça qu'on dit, hein, de ces quarantenaires, de ces quadras. Voilà. Alors, puisque Jésus se tient au milieu d'hommes ordinaires, d'hommes et de femmes ordinaires, des pécheurs en marche dans la sanctification, des personnes ayant des défauts gros comme le nez au milieu de la figure, nous sommes appelés à aimer l'Église telle qu'elle est réellement. Nous rêvons tous d'une Église idéale, n'est-ce pas ? où toutes les personnes seraient agréables, arriveraient tous à l'heure, donneraient tous leur offrande avec générosité ou reconnaissance, comme il nous a été dit ce matin, qui chanteraient tous juste, qui feraient des temps de louange, des véritables temps symphoniques. Vous voyez, ça, c'est mon rêve, ça. On l'a un peu expérimenté ce matin, hein, avec ces chants a cappella. Une église idéale où tout le monde se disputerait les balais. Une église parfaite où le pasteur et l'équipe pastorale seraient plus que doués. Ils sont déjà doués. Merci Seigneur pour Paul, pour David, pour Vincent et pour tous ceux qui font partie de l'équipe. Voilà, et qui ont en charge pour nous. Une église idéale où tous seront des serviteurs accomplis. Une église idéale avec une réputation internationale, voire mondiale, qui ferait le buzz sur Internet, que les gens des autres églises viendraient, resteraient chez eux pour regarder le culte au milieu de nous. Une église avec une liturgie millimétrée, en somme une église qui n'a pas besoin de Dieu en fait, hein, parce qu'elle se débrouille très bien sans lui et sans sa grâce. Peut-être avez-vous entendu parler de Dietrich Bonhoeffer. Je sais que Fred le cite souvent, hein, mais j'aime ce petit ouvrage qu'il a écrit qui s'appelle « De la communauté ». De la communauté. Et j'y trouve vraiment des idées qui sont claires, qui sont nettes. Voilà. Et il dit ceci, Dietrich Bonhoeffer, « Si on préfère notre idée de la communauté, si on rêve de notre communauté idéale, si, eh bien, on va finir par la détruire. » Parce que si je m'attends à trouver une église sans défaut, je serai rapidement déçu. Tel frère ne répondrait pas à mes attentes. Telle manière de faire ne correspondrait pas à mes idées. Certaines doctrines secondaires ne me convaincraient pas. Et puis peut-être persistant dans cette quête d'une église idéale, je risque de devenir amer, de devenir critique, de devenir accusateur des frères, voire tenter de manipuler ou de contrôler, au point même de devenir insupportable. Alors oui, dans la véritable vie de l'Église, il arrive que nous nous froissons. Alors que faisons-nous? Nous nous pardonnons les uns les autres. Nous nous relevons les uns les autres. Et puis nous continuons. Le Seigneur nous appelle à aimer l'Église réelle et non pas l'Église idéale. Alors Jésus a montré à ses disciples ses mains et son côté. Le texte biblique précise alors que les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus a voulu montrer et confirmer à ses disciples son identité. Mais je crois également que par ce geste, Jésus montre son œuvre accomplie. L'Esprit Saint nous rappellera tout le temps ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Cette œuvre rédemptrice qui permet le pardon des péchés, la justification des pécheurs et la vie nouvelle qui se renouvelle pour l'éternité. L'Église devient une communauté de grâce, appelée à refléter le Christ crucifié et ressuscité dans le monde. Alors cela ne signifie pas que nous ne devrions pas chercher à progresser et à grandir. Au contraire, là où nous voyons des manques, eh bien, cherchons à progresser, à nous améliorer. Mais ce travail de progrès commencera par nous et non pas par les autres. OK ? Ayons ce regard de grâce sur les frères et les sœurs. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse, une belle parenthèse. Dimanche dernier, à l'espace Séguier, Chantal a apporté une petite méditation, enfin, pas une petite, une méditation, une prédication, sur la révélation progressive de la grâce, et elle a partagé une petite parabolette qu'elle a écrite. Et je lui ai demandé si elle voulait partager une partie de cette méditation. Alors vous avez eu le fils, vous avez eu David, vous avez le père, maintenant vous avez la mère, c'est le jeu de cette famille.
Fils et le père ont beaucoup plus l'habitude de voir les gens comme ça, de l'estrade que moi. Hein. Alors, je vais partager ce matin un court paragraphe concernant l'œuvre de la grâce. Car la grâce, ce n'est pas juste une doctrine, ce n'est pas seulement une théorie, mais c'est quelque chose qui porte du fruit en nous, qui va nous permettre de grandir sainement dans de nombreux domaines de nos vies. J'en évoquerai juste deux très rapidement. Premièrement, la croissance dans la grâce, le fait de se savoir aimé, acquitté, accepté par Dieu, va peu à peu me rendre libre d'être la personne que j'admire le plus dans l'Église, non, pas du tout, d'être simplement ce que je suis, tout simplement, ni plus ni moins que ce que je suis. Elle nous permet de nous montrer vrais, même dans nos faiblesses, dans nos vulnérabilités. Je ne suis plus sous le joug de chercher à plaire à Dieu, aux autres, mais peut-être surtout à moi-même, c'est-à-dire d'être quelqu'un à mes propres yeux. Car l'homme est capable de s'infliger bien des peines pour être validé par lui-même. Nous sommes des mauvais maîtres. Notre joug est dur et lourd envers nous-mêmes. Alors peu à peu, la grâce agit et nous délivre de nos propres exigences envers nous-mêmes. Si j'ai reçu deux talents, et bien que je ne me comporte pas comme si j'en avais reçu trois, c'est très très fatigant. Et que je ne soupire pas sans cesse après un troisième, mais que je fasse simplement fructifier ce que j'ai reçu. Inutile de chercher à être quelqu'un, je suis déjà quelqu'un qui a été voulu par Dieu, qui est unique et qui est aimé de Dieu pour l'éternité. Deuxièmement, mon éveil à la grâce modifie progressivement mon attitude envers moi-même, mais également envers les autres. Je vais leur permettre à eux aussi d'être ce qu'ils sont appelés à être, c'est-à-dire différents de moi. La grâce va nous apprendre à accepter nos différences. Nous ne sommes pas semblables, il suffit de nous regarder ce matin, des uns des autres. Nous n'avons pas les mêmes convictions dans de nombreux domaines, ni les mêmes priorités, les mêmes façons de vivre, de dépenser notre argent. C'était le Black Friday, il y en a qui ont profité de ce jour pour renouveler leur garde-robe, mais il y en a d'autres qui ont dit « non, je ne mettrai pas les pieds dans un magasin ce jour-là ». Voilà, c'est des convictions différentes, peu importe. Nous n'avons pas la même façon de nous habiller. Nous avons d'autres manières de nous divertir. Moi, pour me divertir, il faut que je fasse de l'hébreu et que j'aille nager. Mais pour d'autres, passer du manteau au maillot de bain en 3 minutes, c'est terrible. Voilà, bref. Mais aussi, nous avons d'autres manières de servir le Seigneur, chacun. En étant de plus en plus conscients de la grâce de Dieu envers nous, nous apprenons à la manifester aux autres, à respecter leur individualité au lieu de les juger. Étant nous-mêmes imparfaits et inconséquents, nous ne sommes pas qualifiés pour juger les autres. Et c'est là que je vais vous lire ma petite parabolette. D'où le petit dessin, cette petite parabolette. Elle est très courte, n'ayez pas peur. Elle s'appelle « Le trou de serrure ». Il y a quelque chose que je n'ai jamais fait, me semble-t-il, physiquement, mais que pourtant je pratique spirituellement. Regardez par le trou de la serrure. Placez mon œil devant un trou de serrure pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Je crois que c'est cette attitude que j'adopte quand je place une personne sous les feux de mon jugement. J'outrepasse mes droits. Je ne suis pas chez moi. Ce qui se passe de l'autre côté est volontairement délimité par des murs et une porte qui affirment un droit de propriété que je foule aux pieds. Le « juger » entre guillemets pourrait bien ouvrir brusquement la porte et être profondément offusqué de me trouver là. Quand je regarde à travers un trou de serrure, ma vision est réduite, faussée. Je vois un petit bout de la personne ou de la situation qu'elle vit, mais je ne vois pas le contexte, tout ce qui l'entoure, tout le décor de sa vie, la diversité des moments qu'elle traverse et les temps où elle évolue dans d'autres pièces qui échappent à mon regard. Une vie, une âme, une histoire humaine, c'est tellement plus grand que ce que je peux en percevoir. Non, je ne peux pas enfermer mon prochain dans ces millimètres cerclés par l'acier de mon jugement.
Merci, chérie. Je vais terminer ma prédication. Merci pour cette belle parenthèse, Chantal. Voilà. Jésus se tient au milieu des disciples. Du désarroi à l'envoi, la communauté est envoyée. Si tu veux passer l'autre diapo, Cédric. Nous nous réunissons le dimanche matin pour le culte, puis peut-être dans la semaine une à deux fois. Et nous pensons à notre fort intérieur que peut-être c'est trop. Sortir de chez soi, prendre son manteau, par ce froid, démarrer sa voiture ou prendre les transports en commun pour se rendre à ce lieu de rendez-vous. Quel effort ! Alors je voudrais vous faire toucher du doigt que c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Il y a un mois, nous avions un temps consacré à l'église persécutée. Jean nous avait parlé de cette église persécutée, plus de 380 millions de personnes, de chrétiens qui n'ont pas la grâce comme nous de pouvoir se réunir même pour célébrer le Seigneur. Ce que nous vivons ce matin, ce que nous vivons ensemble, avec les cantiques, avec les chants, avec la prédication, avec Jésus au milieu de nous, voilà, c'est une sorte d'anticipation de ce que nous vivons tous ensemble dans l'éternité, cette réunion de myriades et de myriades autour du trône de l'agneau. Mais ce temps, pour nous, n'est pas encore venu pour cette heureuse rencontre. Nous sommes aujourd'hui une communauté dispersée, non pas dispersée par des forces de dispersion, comme les disciples dans la chambre haute. Nous sommes une communauté dispersée parce que le Seigneur l'a voulu ainsi et qu'il nous a envoyé avec ce message à porter, celui du pardon des péchés. Alors laissez-moi vous dire un mot à ce sujet. Je passerais à côté de quelque chose d'important si je ne le faisais pas. Le message de l'Évangile n'a pas changé. Le contenu du message que Jésus a demandé d'annoncer est toujours le même. Repentance et pardon de péché qui suit la repentance, permettant la réconciliation avec le Père. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. À ceux qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Il ne faut pas comprendre que les apôtres choisissent de leur propre chef de pardonner ou de ne pas pardonner. C'est la propre réponse des hommes à la prédication de l'Évangile, leur acceptation ou leur refus de l'Évangile qui conditionne ce pardon. L'apôtre Paul l'a bien compris lorsque, à Antioche de Pisidie, il a dit « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Alors, lorsqu'on parle du pardon des péchés, on a l'impression d'un message ringard, dépassé. Mais le péché est le problème le plus important chez l'homme. L'homme moderne essaie de noyer le poisson et détourne l'attention du problème numéro un de l'homme qu'est le péché, par toutes sortes de subverterfuges, divertissements, recherche du bien-être, matérialisme, report de la faute chez les autres. Il nous faut être lucides. Lorsqu'on demande à Chesterton, un auteur et journaliste anglais catholique du siècle passé, qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ? Chesterton répond lucide, ce qui ne va pas dans le monde, c'est moi. C'est moi. Moi qui suis éloigné de Dieu. Moi qui suis en guerre contre Dieu, moi qui ai besoin de réconciliation et de pardon. Jésus a payé le prix. Noël, c'est Dieu qui envoie son Fils unique pour donner sa vie en rançon pour le péché. Si tu ne connais pas Jésus ce matin, sois réconcilié avec lui. Demande-lui le pardon et le pardon, il t'accordera. Viens à Jésus. Tel que tu es, il t'appelle. Ne tarde pas. Le culte de la communauté est un temps de grâce, un temps au dehors du temps, le temps d'une pause, le temps d'un repos dans la joie, le temps de recevoir l'Esprit et la parole vivifiante que Jésus souffle sur nous. Mais c'est un aller et retour. Frères et sœurs, tout à l'heure, nous reprendrons le chemin de nos activités de la semaine. Nous sommes, les uns et les autres, semences de Dieu durant cette semaine, au milieu d'un monde qui est inamical, au milieu d'un monde qui ne connaît pas le Christ. Mais nous avons ce message à apporter, celui du pardon des péchés. Encore, il ne change pas. Alors même dispersés dans la réalité de nos vies quotidiennes, nous restons unis dans la présence de Jésus. Soyons reconnaissants et soyons joyeux pour la grâce de la communauté. Vivons-la pleinement comme nous le faisons. Il nous a soufflé l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous accompagne et l'Esprit Saint souffle où il veut. Que le Seigneur nous amène là où l'Esprit nous portera. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, moi je veux te remercier pour ta présence au milieu de nous, parce que c'est grâce à toi que nous sommes là. C'est autour de toi, autour de ta présence, Seigneur, que nous nous retrouvons. C'est toi qui es la source de notre unité, de notre paix et de notre espérance. Seigneur, moi je veux te remercier pour le don de la communauté, pour chaque frère et sœur que tu as placé à mes côtés. Seigneur, apprends-nous les uns et les autres à reconnaître en chacun un cadeau de ta grâce, Seigneur, à nous aimer au-delà des différences et à vivre un pardon plein et entier. Nous avons besoin de toi pour vivre la communion fraternelle. Seigneur, aussi, cette semaine, envoie-nous dans le monde comme témoins de ta paix avec ce message important du pardon des péchés. Amen.